Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 14 novembre 1991.
Quelques petites questions. C'est la critique, n'est-ce pas? Quelle différence y a-t-il entre le regard de la philosophie du vivant sur le jugement et l'appréhension et celui de la critique sur ces mêmes opérations? Si vous vous souvenez bien, nous étions la dernière fois nous étions arrêtés au discernement que fait la critique entre jugement et appréhension. Et je crois que ce discernement est capital pour montrer ce qu'est une philosophie réaliste. Ce serait très intéressant, du reste, à voir au point de vue topique historique, si au fond, dans toutes les philosophies idéalistes, est-ce que on ne trouve pas le primat de l'appréhension qui tout simplement se prolonge en jugement? Occam dit ça admirablement, expressément. Il dit que le jugement, c'est simplement l'addition d'appréhension. On additionne, mais c'est quantitatif. Parce que l'addition est quantitative. Alors, on additionne diverses appréhensions et on a le jugement. Par mode de composition, par mode de division. Vous divisez, vous avez la négation. Vous additionnez, vous avez le jugement positif. Ceci est la somme de ceci et de... Donc, il n'y a plus rien d'original dans le jugement, puisque c'est l'addition. C'est très très curieux. Et je crois, quand on regarde quelqu'un comme Hamelin, ce néo-hégélien français, on voit que c'est la même chose, c'est l'addition. Et on comprend très bien, alors, l'intuition est le prototype de ce que représente le jugement. Il y a une addition des diverses déterminations. Donc alors, quelle différence y a-t-il entre le regard de la philosophie du vivant? Dans la philosophie du vivant, on regarde les opérations au point de vue de l'efficience vital. Et on s'aperçoit qu'il y a des opérations qui ne font que saisir, comme l'intuition. J'ai une idée, j'ai une intuition, on saisit. Et c'est simple. Et puis il y a des opérations plus complexes. Affirmation et négation. L'avantage de l'intuition, c'est qu'elle est au-delà de l'affirmation et de la négation, d'une certaine manière. Elle apparaît comme ça, au point de vue vital. Donc au point de vue vital, on regarde bien ce qui spécifie l'opération, mais on regarde avant tout, je dirais, le style particulier de l'homme qui connaît intuitivement, d'une manière simple et d'une manière complexe. Vous voyez, dans Bergson, c'est extrêmement significatif. L'intuition devient l'opération la plus vitale. Je vis quand j'ai des intuitions. C'est du reste vrai, psychologiquement parlant. On n'a aucune intuition, c'est pas très vital. Un cours plein d'intuition est un cours très vital. C'est des flashs. qui est un homme d'intuition, par son inspiration, apparaît toujours comme celui qui a une vitalité très particulière. Le jugement apparaît au contraire comme affirmation et négation. C'est discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. L'intuition est au-delà. Alors, dans le De Anima, Aristote précise bien deux opérations. Mais si vous êtes attentif, vous voyez que les deux opérations, j'allais dire, c'est celle qui est par mode quantitatif et celle qui met le point de vue de l'affirmation en lumière, l'être. Ceci est, ceci n'est pas. Tandis que de l'autre côté, c'est l'affirmation. Donc, c'est le per modum quiditatis, par mode de quidité. Mais ce n'est pas l'appréhension dans toute sa pureté. C'est les deux modalités vitales dans le De Anima. C'est pour ça que la plupart du temps, les critiques disent « Ah, mais c'est pas du tout l'appréhension hein, et le jugement tel que on l'a affirmé ensuite chez saint Thomas. » Et c'est vrai. Il faut pas chercher dans le De Anima la critique. Il faut chercher dans le De Anima la découverte de deux manières de connaître pour l'intelligence. De manière première, l'une qui implique la vérité, l'autre qui est au-delà de la vérité. Mes intuitions ne sont ni vraies ni fausses. C'est une intuition. Ne demandez pas à l'intuition d'être vraie. C'est pas son rôle. L'intuition, c'est découvrir. Découvrir quelque chose. Quelque chose qui est simple, puisque justement, toute intuition porte quelque chose de simple, mais qui peut être une relation. Quand Maritain parle de l'intuition de l'être, en réalité, il se place au niveau du De Anima. Donc au niveau de la philosophie du vivant. Il y a un mode particulier où je saisis une relation, ce que je vous ai dit. L'intuition de l'être, chez Maritain, c'est Raïssa qui l'a eue. Elle a saisi le petit chat qui existe, qui était devant elle et elle-même. Donc elle a saisi une relation à l'exister qui est à la fois diverse et la même. Raïssa existe, le petit chat existe. Mais Raïssa existe autrement que le petit chat. Et le petit chat existe autrement que Raïssa. Là, je saisis intuitivement quelque chose de très particulier qui est propre à l'exister. C'est le point de départ, au fond, d'une connaissance analogique qui implique toujours quelque chose de commun et donc qui implique une certaine intuition. Il y a une certaine intuition. Je pourrais dire, vous voyez, qu'il y a une certaine intuition qui est la source de l'admiration et de la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Donc, au point de vue de la philosophie du vivant, c'est au niveau de l'efficience. Au niveau de l'exercice, il y a un exercice simple, il y a un exercice complexe. Et affirmation et négation se fait à l'intérieur du point de vue de la complexité. Au point de vue critique, c'est ce que nous avions essayé de découvrir ensemble. Comment le jugement ne peut pas être premier. Parce que la critique, c'est le prof de la critique. Elle cherche ce qui est élémentaire, ce qui est fondamental. Un mode architectural, un mode aussi, le mode de connaissance de l'archéologie. On cherche ce qui est premier dans les fondements. Un archéologue qui ne va pas jusqu'au bout, qui découvre une certaine vieille construction et qui prétend que cette construction et la dernière, il n'a pas été jusqu'au bout. Le suivant découvrira l'autre. Cette découverte très saints tous ceux qui ont été à Capharnaüm et qui ont entendu le franciscain capucin qui est archéologue et qui a fait une découverte très intéressante. Parce que à un moment donné, on avait dit les restes de la synagogue qu'on voit à Capharnaüm, c'est la synagogue où Jésus a prononcé le grand discours sur le pain de vie. Cet archéologue a découvert en dessous de la construction de la synagogue, des ruines de la synagogue actuelle, quelque chose qui est pavé et donc qui est premier. Donc il a posé l'hypothèse, est-ce que la synagogue dont il reste les fondements n'est pas la synagogue qui a été construite plus tard, après le discours du Christ, et que la vraie synagogue du discours du Christ était antérieure et dont il reste uniquement la base. Oui, ça c'est vraiment la découverte de l'archéologue. Un archéologue doit découvrir ce qu'il y a de fondamental. La méthode de Foucault, c'est très bien pour la construction, mais l'intelligence n'est pas une intelligence constructive. Premièrement, elle peut l'être. Chez un artiste, l'intelligence est constructive. Mais l'intelligence est premièrement contemplative et pas constructive. Donc, au-delà de la méthode archéologique, il y a une méthode scientifique. Il y a une méthode philosophique qui aboutit à la réalité. Non pas que l'homme a fait, mais qui existe avant l'homme. Alors, si je me place du côté proprement critique, j'essaierai de chercher qu'est-ce qu'il y a de premier dans ma connaissance humaine. Et je verrai que dans ma connaissance humaine, je ne peux pas m'arrêter au jugement. Je ne peux pas m'arrêter à l'intuition. Parce que l'intuition est encore un jugement. Parce que c'est la saisie d'une relation. Donc il y a deux éléments. Qu'est-ce qui est au-delà du jugement? Qu'est-ce qui est au-delà de l'intuition? C'est l'appréhension. L'appréhension qui saisit quelque chose de simple, l'acuité. C'est pour ça que je vous ai rappelé que ça veut dire quidité au point de départ, parce que c'est un mot qu'Aristote a inventé, le to-ti-en-en-en. Ce qui, dans la réalité, demeure l'intelligibilité fondamentale de toute réalité qui existe. Mais cette intelligibilité fondamentale, c'est l'intelligence qui la saisit. Et l'intelligence s'éveille en premier lieu, selon l'ordre génétique, dans cette appréhension. Mais en même temps, je dis, l'appréhension n'existe jamais à l'état pur. Elle existe toujours dans un jugement. Parce que l'appréhension est élémentaire. Un élément n'existe jamais comme élément, sauf dans ma pensée. Parce que tout de suite, l'élément est lié à autre chose. Il est lié à un tout, comme élément. L'appréhension est donc l'élément de ma vie intellectuelle. L'élément fondamental de ma vie intellectuelle. Ce qui existe, c'est le jugement. Je vis de mes jugements. Le vécu de l'intelligence est toujours le jugement, la proposition. Le vécu de l'intelligence n'est pas l'appréhension. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant à voir. Alors évidemment, je peux essayer dans mon vécu de l'intelligence, de saisir ce qu'il y a de tout à fait élémentaire, mais qui n'est jamais à l'état de vécu. L'élément, je le découvre. Je le mets en lumière. Et je le découvre par une méthode critique. L'archéologie est une méthode critique. Et c'est très facile à comprendre. Parce qu'on est archéologue d'une réalité qui a existé et qui n'existe plus que dans certains aspects. Il y a un témoignage que là, il y a eu une ville. Cette ville n'existe plus. Il faut la redécouvrir. Et je la redécouvre parce que je vois certains témoignages qu'il y a eu là une ville. Et je cherche les fondements. Et l'archéologue cherche toujours les fondements. L'archéologue ne cherche pas les principes, mais l'élément. Et l'élément, c'est le fondement. Donc voyez la différence entre la philosophie du vivant et la critique. C'est très important. Alors, est-ce que la dialectique hegélienne n'est-elle pas les deux, l'alliance d'une méthode archéologique et d'une méthode philosophie du vivant? Et cette confusion proviendrait toujours de l'ontologie. Là, ce serait très astucieux de faire la distinction. Pour faire la distinction entre la critique et la philosophie du vivant, il faut nécessairement distinguer la réalité qui existe de mon vécu intellectuel. Mon vécu intellectuel n'est pas la réalité qui existe, mais mon vécu intellectuel provient de la réalité qui existe. J'ai atteint cette réalité et je la possède en moi. C'est mon vécu. Le vécu est toujours de l'ordre de l'avoir. Tandis qu'au contraire, l'expérience première, c'est de saisir ce qui est. Si je suis dans une perspective de l'ontologisme, je fais un blocage entre le vécu, l'avoir et l'être. C'est le vécu. Et par le fait même, je ne peux plus distinguer une méthode critique de ce que représente la recherche de la philosophie du vivant. Et les deux sont liés. Je pose la question. Vous parlez de confusion entre le concept et l'idée. Pouvez-vous préciser cela ? L'idée existe au niveau de ma connaissance artistique. Un artiste sait très bien ce que c'est que d'avoir une idée. Et on sait très bien ce que c'est qu'un projet. Il y a des vacances, on va faire un petit projet de voyage. Je ne dis pas j'ai un concept de mon voyage, non plus. J'ai un projet, j'ai une idée. L'idée naît de l'inspiration artistique. On est tous des petits artistes quand il s'agit de voyager. On a un projet. Projet de vacances. Et on vous demande de dépasser les projets de vacances pour entrer dans la contemplation. Parce que l'homme est un être qui ne cesse de faire des projets. Tout le temps. Et la plupart des êtres humains vivent de leurs projets. Tout le temps. C'est le petit artiste qui est en nous. Qui ne vit jamais là où il est. Parce que c'est trop triste. Il vit toujours dans le futur. Tant qu'il est jeune. Et à un moment donné, ça capote, il vit dans le passé. Signe de vieillesse, on vit du passé. Tandis que quand on est jeune, on vit du futur. On a beaucoup de peine de vivre du présent. Parce que c'est pas drôle. Ou c'est suprêmement drôle, c'est l'éternité. Alors c'est quelque chose de magnifique. Parce que C'est par l'instant présent que je suis en contact avec l'éternité. Pas par le passé ni le futur. Le passé et le futur, c'est l'intentionnel. C'est l'intentionnalité. C'est le vécu passé. C'est ce que je vivrai plus tard. On a beaucoup de peine de vivre du présent, l'instant présent, le réalisme de l'instant présent. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous faites la distinction entre la connaissance pratique, artistique, et la connaissance dite spéculative, qui atteint le réel qui m'est donné. Connaître le réel qui m'est donné par le jugement d'existence, ceci est. Maintenant, c'est accepter le réel tel qu'il est. Ce qui est toujours très difficile. Parce que perpétuellement, on vit dans l'irréel, c'est-à-dire l'imaginatif. L'idéa est le fruit de la coopération de l'intelligence et de l'imaginaire. Je me projette dans le futur. Et le passé, c'est l'alliance de l'intelligence et des souvenirs qui sont encore gardés dans l'imagination. Le trésor de l'imaginaire, c'est le passé. Mon patrimoine intellectuel, ma bibliothèque ambulante, tout ce que j'ai vécu, toutes mes rencontres. Et c'est ça, ce vécu, ce patrimoine que je possède. Donc c'est mon avoir. Et le futur, c'est ce que j'espère posséder un jour. Et le présent, c'est accepter d'être pauvre intellectuellement et de recevoir ce qui est, et de ce qui est, accepter d'être dans un état de réceptivité. Le pauvre est toujours dans un état de réceptivité. Toujours. Parce que justement, il ne peut pas vivre de ce qu'il possède, il n'a rien. Donc, il est celui qui écoute. Qui écoute le réel, qui est présent. Alors, le concept, c'est ce que mon intelligence forme au-dedans d'elle-même, à partir de la réalité qui existe. L'idéa, c'est projeter sur ce qui va venir. Projet, ce que je désire, ce que j'attends, et ce que j'ai vécu, les secrets que je porte en moi, c'est tout ce que j'ai vécu. Alors il peut y avoir un secret actuel, hein, l'ami. L'ami est mon secret. Mais tout ce que j'ai vécu du passé, c'est d'une certaine manière mon patrimoine. Et je le possède à travers mes idées. Pas dans mon concept. Le concept est lié au réel actuel. Toujours. Et dès qu'il est dans le passé, il devient une idée. Je me représente le passé. Je n'ai pas besoin de me représenter ce qui est actuel. Ce qui est actuel, je le vois, je le connais, je l'expérimente, je le connais, le concept. Vous voyez, vous pouvez par là distinguer nettement l'idéa du concept. Le concept, c'est ce que mon intelligence saisit de la réalité existante, que j'expérimente, que j'analyse. Je forme au-dedans de moi-même, d'une manière inconsciente, naturellement, j'allais presque dire, selon l'appétit naturel de mon intelligence. Je forme au-dedans de moi-même ce concept qui est la réalité telle que je suis capable de la connaître. La réalité son intelligibilité la plus profonde. Je forme le concept animal qui a une signification. Je forme le concept homme. Je forme le concept capable de rire. Tout ça, c'est des concepts, c'est pas des idées. Parce que j'ai pas du tout envie de réaliser l'homme. Il existe. Il existe. C'est à partir de l'animal existant que j'ai formé le concept. Alors voyez, mes concepts sont ou génériques ou spécifiques. Les prédicables, les cinq prédicables, on avait parlé la dernière fois, me donnent les modalités particulières de ces concepts tout à fait premiers. Alors j'ai des concepts analogiques. Saisir les principes. Alors je passe du concept univoque des cinq prédicables au concept générique. J'ai tout un monde de concepts en moi que j'organise plus ou moins bien. Et puis j'ai des idées. Et quand je fais la confusion des idées, des concepts, je ne distingue plus le réel de ce que je pense. Ça que Descartes parle de formes innées. Et ces formes innées, ce sont ces concepts et ce sont ces idées. Plus de distinction. On n'a plus qu'une seule manière de connaître, c'est de fabriquer. Et là, Bergson a vu juste. C'est terrible de ramener toute la connaissance à la fabrication. Il y a une connaissance antérieure, qui pour lui c'est la connaissance intuitive. On peut aller plus loin et dire c'est la connaissance spéculative qui fait que je respecte le réel. C'est ça la connaissance spéculative. C'est de respecter le réel. C'est de pas vouloir tout le temps le réinventer. Parce que certaines personnes ne s'intéressent qu'à ce que ceux qui sont inventés. La seule chose intéressante, c'est ce que j'ai inventé. Le réel antérieur à moi n'a aucun intérêt. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. À ce moment-là, leur connaissance n'est plus du tout contemplative. Elle est uniquement dans la réalisation. L'idée a tout absorbé. Une connaissance symbolique est-elle une connaissance de concept ou une connaissance d'idée? Posez-vous la question. Dieu parle par mode de symbole. Pourquoi? Alors, il y a connaissances symboliques qui sont liées aux idées. Il y a une connaissance symbolique liée aux idées, liée aux concepts. Et c'est intéressant de voir la différence entre un symbole qui m'aide à connaître et à contempler et un symbole qui m'aide à fabriquer, à réaliser quelque chose. Vous avez deux types de symboles. Et vous avez un troisième type de symbole qui est le mythe. C'est redonner vie au passé. C'est me représenter le futur d'une manière symbolique à travers un mythe. Dernière question. Est-ce que l'appréhension ne se pose pas en premier lieu en philosophie du vivant? l'intérieur de lui-même une possibilité d'être divisé. Puisqu'il est deux. Tout jugement porte en lui-même l'opposition de contradiction. Ceci n'est pas. Si le jugement porte en lui-même la possibilité d'être divisé, ça prouve qu'il n'est pas premier. Ça prouve qu'il n'est pas simple. Le jugement est donc composé. Ce qu'Aristote affirme tout le temps, le jugement est une connaissance par mode de composition ou division. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jugement n'est pas premier. Il n'est pas simple. Il implique composition et division. Mais c'est très important pour nous de bien comprendre que le jugement porte en lui la possibilité de la division. Donc il n'est pas premier. S'il n'est pas premier, qu'est-ce qu'il y a avant le jugement? Alors là, c'est la très grosse difficulté. Qu'est-ce qu'il y a avant le jugement? Qu'est-ce qui est antérieur à ceci et ceci n'est pas? Il y a donc le ceci. Puis il y a « et ». Voilà les deux éléments. Mais ça, c'est trop simple. Ça, c'est la division. C'est le fruit de la division. Donc, c'est quantitatif. C'est pas ça. Il faut redécouvrir au point de vue de la vie. Puisque le jugement est un acte vital. Quand je juge, c'est la vie de mon intelligence. C'est la vie de l'esprit. Juger, affirmer, nier. Alors, je ne peux pas dire que le jugement, c'est l'addition, ceci est. C'est l'addition de ces deux. Vous voyez, ça, c'est Occam qui dit ça, mais c'est très quantitatif. Alors, si le jugement, c'est l'addition de deux éléments, mais attention, parce que, alors, si c'est ça, j'aurai donc deux opérations avant le jugement. Parce que saisir ceci et saisir est, c'est quand même tout à fait différent. D'un côté, c'est le nom. De côté, c'est le verbe. Alors, il y aurait deux opérations antérieures au jugement. L'opération qui saisit ceci et l'opération qui saisit est. Ah, ça, c'est très simple. Vous divisez avec le petit jeu de division. Vous voyez les deux éléments. Et donc, il y a une opération qui saisit ceci, qui saisit est. Quelle est l'opération qui saisit ceci? Ceci, c'est quoi? Ceci, c'est Pierre. Ceci est. C'est le caillou. C'est tout ce que vous voulez. Ah, alors comment je saisis ceci? Est-ce que j'ai une intuition directe du ceci est de Pierre? Et puis, le verbe être. Alors, le verbe être, comment je le saisis? Vous voyez, là, c'est là la très grosse difficulté. C'est que où je prends une division matérielle et j'ai deux opérations antérieures. Mais ces deux opérations antérieures, qu'est-ce que c'est? Alors, je pourrais dire, oui, c'est ma cogitative qui saisit ceci. Donc ceci, en réalité, c'est la réalité concrète. La réalité concrète, ce n'est plus du tout l'intelligence. Parce que c'est le concret. Pierre, concret. Or, ce concret, je le saisis par le point de vue des sens. C'est la cogitative ou l'estimative qui saisit ça. Saisit le concret. Mais la vie d'intelligence va naître à partir de là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de saisir, puisque le jugement est de l'ordre de l'intelligence. Il faut saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'intelligence. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligence? Qu'est-ce qui est avant le ceci est? Alors, je dirais, si je prends tout simplement, c'est que ceci implique des déterminations et implique quelque chose de commun aussi. Il y a quelque chose de commun entre le ceci et le est. l'exister. Je dis autre chose. Mais l'exister est relatif à ceci. Et en même temps, le ceci est relatif à est. Nous l'avions déjà vu ça en métaphysique. Je peux mettre aussi bien le lien entre les deux. C'est réciproque. C'est très curieux, c'est réciproque. Le verbe être détermine le ceci. Et le verbe être est déterminé par le ceci. Vous voyez, cette phrase très très belle qu'on trouve dans Aristote, to einein anthropo, l'être à l'homme. Quand je dis ceci, Pierre existe. Je dis l'être à l'homme. L'être à l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde l'exister dans l'homme. Et je regarde l'homme dans sa détermination, qui vient donc donner à l'exister une modalité particulière. L'exister de l'homme n'est pas le même que celui de la vache. C'est pas le même exister. Une autre manière d'exister. Et donc, le ceci homme détermine l'exister. Et l'exister détermine l'homme. Comme c'est curieux, ça. Hein? Substance première, substance seconde. Oui, on revient toujours à ça. Substance première, seconde. Mais nous avons vu, en métaphysique, puisque la critique présuppose la métaphysique, qu'il y avait quelque chose qui était antérieur à ces deux modalités. Qu'on pouvait saisir un principe. Et la saisie du principe montre qu'il y a quelque chose antérieur. Ici, on retrouve quelque chose de même. Au niveau critique, au niveau de l'intelligibilité, il y a une intelligibilité commune entre ceci et est. Autrement, je ne pourrais pas les unir. Je ne peux pas unir des choses qui sont tout autres. Je ne peux unir dans mon intelligence que des choses qui ont quelque chose de commun. Et donc, regardez, ceci est, ne fait pas du tout comprendre comment il y a une unité dans ceci est. Il faut donc découvrir ce qu'il y a de commun dans le ceci et dans le est au niveau de l'intelligibilité. Vous voyez, analogue, mais en même temps tout à fait différent à l'induction. La méthode critique est réductive. La méthode philosophique est inductive. Quelle différence y a-t-il entre la réduction et l'induction ? L'induction me permet de découvrir un principe. La réduction me permet de saisir l'élément commun au niveau de l'intelligibilité, au niveau de la connaissance, de ce jugement très simple, ceci est. Alors, on arrive à préciser qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. C'est ce qu'on appellera la détermination fondamentale de tout ce qui est. Et ce sera l'acuité. Le do. Di. N. Einein. Vous voyez, l'être, c'est pas l'être du tien, c'est le tien dans l'être. Oui, alors il y a deux formules très très curieuses et qui sont très intéressantes à mettre en parallèle. Le to einai anthropo. Donc mettez ça en français si vous voulez. L'être à l'homme. Et ici, le ce qui est. Ce qui est, ce qui est, ce qui demeure. Radicale qui donne l'intelligibilité première.